CAP, site immobilier de particulier à particulier présente.
Sud Radio, on parle immo.
On parle immo, l'émission 100% immo de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marquez Ratti.
Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Au sommaire cette semaine, les visites de biens immobiliers au cœur d'un bras de fer entre les agents immobiliers et le gouvernement. Avec nous pour en parler, Stéphane Fritz, il est président du réseau Guy Hockey et Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Corinne, qu'on retrouvera pour un coaching immobilier consacré aujourd'hui à la trêve hivernale et au risque d'impayés de loyers. En fin d'émission, le 48 secondes de Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia avec Fred. On verra cette semaine si on peut voter lors d'une AG de copro sans y être physiquement présent. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'Imo.
Sud Radio, on parle Imo, le journal.
N'immobilisez pas l'immobilier, les 10 plus gros réseaux immobiliers français ont lancé un appel au président de la République.
Et circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça qu'on pourrait résumer la réponse du gouvernement aux agents immobiliers. Les patrons des 10 principaux réseaux français, dont Guy Hockey, Foncia, Nexity ou encore Orpi, avaient demandé en début de semaine, dans une lettre commune au président de la République, de réautoriser les visites physiques des biens à vendre ou à louer.
Marc, on poursuit ce journal avec un gros coup de gueule que vous passez ce matin. Comparer la fermeture d'agences immobilières victimes de la crise du Covid à une purification ethnique est pour vous choquante et ça vous met très en colère.
Et le débat sur les visites a pris une tournure indécente cette semaine. Pour preuve, cette chronique parue dans Capital et rédigée par Henri Buzicazo, le respectable président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, qui a comparé la fermeture possible d'agences immobilières à cause du confinement à une purification ethnique. Rien que ça. Excusez-moi de le penser, c'est une comparaison qui me semble indécente, choquante et absurde. Que des agences ferment, c'est évidemment un drame social, économique et humain indéniable, mais en aucun cas on ne peut le comparer à la Shoah qui a fait 6 millions de morts ou encore au génocide rwandais qui en a fait plus de 500 000. Il y a des comparaisons qu'on pourrait se garder de faire. Dans cette même tribune, l'auteur évoque aussi les femmes battues qui ne pourraient plus, selon lui, se rendre dans les agences immobilières pour échapper à leurs bourreaux. Là encore, l'auteur, pour défendre son point de vue sur l'interdiction des visites physiques, va trop loin. Les femmes victimes de violences conjugales sont d'abord prises en charge, on le rappelle, par les services de police et les services sociaux chargés de leur trouver un hébergement d'urgence. Et d'ailleurs, je rappelle que dont le parc public est largement, très largement, voire exclusivement mise à contribution. Non, croyez-moi, Philippe, les victimes de violences familiales ont d'autres choses à penser que de se précipiter dans les agences immobilières avec leurs enfants sous le bras. Là encore, on ne peut pas tout mélanger.
Voilà qui est dit, Marc.
Allez, sans transition, on va essayer en tout cas, mon cher Philippe, ce matin, dans l'histoire du jour, vous nous racontez l'histoire d'une visite d'un appartement, un petit peu avant le confinement, qui a probablement laissé un drôle de souvenir à un couple de septuagénaires parisiens. Racontez-nous.
Oui, ça s'est passé à Paris quelques jours, c'est beaucoup plus léger. Avant le confinement, un agent immobilier avait proposé à un couple de septuagénaires de visiter un bien qu'il venait de rentrer, répondant parfaitement à leurs critères. En jouir, le couple rejoint l'agent au pied d'un bel immeuble du 9e arrondissement de Paris. On salue Philippe Bilger, qui est dans ce coin-là d'ailleurs. Arrivé dans le logement, intrigué par des bruits et des gémissements suspects, il pénètre dans une pièce et tombe nez à nez avec trois individus, deux femmes et un homme, entièrement nus, s'adonnant à des jeux charnels en plein tournage d'un film X amateur. Le couple de septuagénaires, visiblement très choqué, a quitté précipitamment le logement et a refusé de faire la moindre offre. Je sens que Corinne Joly sent mal en entendant ça. Ça va, Corinne?
Vraiment, j'aurais préféré que vous ne m'interpelliez pas sur cette brève.
Ah bon, bah, et on dit merci qui?
On dit merci
Philippe David Philippe pour David. Cette information.
Voilà, cette visite, bah, évidemment, elle n'était pas vraiment virtuelle.
Oui, c'est clair.
Merci Philippe. Tout de suite, le Mac de la semaine.
Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente.
Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier.
Aujourd'hui, Marc, dans le Mac de la semaine, on parle bien évidemment des visites. Visite physique versus visite virtuelle, le match.
Et pour en parler, Stéphane Fritz est avec nous. Il est président du réseau Guy Hockey, Corinne Joly, en face de moi, présidente du groupe PAP. Bonjour Stéphane Fritz.
Alors, bonjour Marc, bonjour à toutes et tous.
De nombreux agents immobiliers se battent pour obtenir l'interdiction, l'autorisation pardon, de faire des visites physiques. Est-ce que vous en faites partie ?
Oui, bien sûr, on fait partie du consortium, mais tout d'abord, je voudrais dire que je ne m'associe pas du tout à la tribune de Henri Buzicazo, même si je partage pas mal de ses points de vue de temps en temps. Cela, on ne les partage pas du tout, et aujourd'hui, on ne souhaite pas ouvrir. On n'est pas les plus mal lotis, on va dire, nous, les agents immobiliers. On vient porter à la connaissance du gouvernement une ineptie, un non-sens total. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il autorise les agents immobiliers à prendre des mandats, il autorise aujourd'hui à prospecter, il autorise les déménageurs à déménager, les notaires à contracter, les banquiers à faire des prêts. Donc, on voit bien son souhait au gouvernement de maintenir l'activité dans tout cet écosystème. Le seul fait de ne pas faire de la visite, on fait pas de visite, pas de transaction, pas de transaction, pas de prêt, pas de notaire, pas de déménagement. Par ce seul fait-là, alors que nous sommes déjà depuis très longtemps en capacité de préserver, de protéger les gens, parce que c'est le premier souci que nous avons, on comprend le souci du gouvernement, c'est pour ça que nous avons porté à la connaissance du gouvernement cette ineptie. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que vous créez un bouchon comme ça, derrière, ça repart de plus belle et on se retrouve avec plein de gens dans la rue, plein de gens dans les agences. On va le voir par exemple dans le jouet, on bloque en ce moment et on va se retrouver avec plein de gens dans les magasins de jouets. Donc on pense que c'est contre-productif, c'est le confinement même qui, à mon sens, est contre-productif.
Évidemment. Bonjour, Corinne Joly. Alors, vous défendez, par contre, la visite physique, la visite virtuelle.
C'est mal. C'est pas facile ce matin.
Visite virtuelle. Pourquoi ?
Il a été troublé par la visite à Paris 9e.
Je crois qu'on sait tous pourquoi je défends la visite physique. Elle a ses avantages. Non, la visite virtuelle et la visite physique, pour moi, ne s'opposent pas du tout. Elles se complètent. La visite virtuelle, ça permet aux acheteurs d'avoir un maximum d'informations sur le bien sans sortir de chez eux. Et aujourd'hui, c'est quand même ce que beaucoup d'acheteurs demandent parce que c'est très rassurant. Aujourd'hui, les recherches de logements, elles continuent beaucoup sur Internet. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais sur PAP, on a encore eu 1 million d'utilisateurs la semaine dernière à la recherche d'un logement. Et comme les visites physiques sont interdites, la visite virtuelle, c'est la meilleure solution pour avancer et pour avoir des contacts sérieux. Maintenant, là où je rejoins Stéphane, c'est que pour acheter, une visite virtuelle ne peut pas être suffisant. Il faudra faire une visite physique. Et donc, l'idée, c'est que la visite virtuelle, ça fait avancer, mais que dès qu'on sera autorisé à faire des visites, oui, il va y avoir beaucoup de visites physiques à organiser.
Stéphane Fritz, est-ce que vous pensez que c'est quand même utile, les visites virtuelles ?
C'est, à mon sens, non seulement utile, mais indispensable. Elles font partie aujourd'hui du travail de l'agent immobilier, pour nous en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent d'éliminer. Je pense qu'on ne pourra plus faire de visite. Vous savez, cette visite où vous bloquez un temps, vous demandez à votre femme d'arrêter de travailler. À 14h, il faut qu'on se présente à l'agent immobilier, qu'on signe un bon de visite, qu'on aille dans un endroit. Et à cet endroit-là, vous vous dites, non, ce n'est pas là que je veux aller. Ce n'est pas le bon. Dès que vous rentrez dans le magasin, dans l'appartement, ce n'est plus le bon. Ça va éliminer toutes ces visites-là. Mais par contre, vous êtes obligé de sanctionner par une visite physique pour vous sentir dans votre bien quand vous engagez sur 200, 300 000 euros et sur 20 ans. Donc oui, la visite physique, elle viendra toujours sanctionner la décision. En revanche, la visite virtuelle, elle fait partie des outils pour permettre de trier justement et d'éliminer.
Alors Corinne, vous proposez-vous des visites virtuelles sur vos annonces depuis 2 ans ? Quels sont les résultats ?
Ça trie, en effet. Les vendeurs qui ont une visite virtuelle ne font en moyenne que 2,4 visites physiques pour vendre. Donc ça prouve bien que les acheteurs qui les contactent sont plus qualifiés, ils sont réellement intéressés par le bien. Et lors du précédent confinement, ils ont conclu plus rapidement dès la levée des restrictions parce que dès les premiers jours, ils ont pu organiser des visites utiles et efficaces. Voilà, pour moi, la visite virtuelle, c'est avant tout une question d'efficacité. Il s'agit de donner les informations aux acheteurs et d'éviter les visites inutiles.
Alors Stéphane, on a parlé des acheteurs, mais il y a aussi les locataires. Est-ce que vous pensez qu'en location, les visites virtuelles pourraient remplacer les visites physiques ?
Remplacer, non, mais elles vont. C'est plus facile aujourd'hui. Je crois que c'est près de 20% des gens qui sont prêts à louer sur la base d'une visite virtuelle. Donc aujourd'hui, oui, déjà sur cette catégorie-là, sur l'allocation, mais aussi sur les moins de 35 ans qui sont déjà plus à l'aise avec les outils digitaux. Donc sur l'allocation, ça progressera beaucoup plus rapidement que ça ne le fera sur la transaction.
Corinne, les visites virtuelles en location, vous y croyez ?
On a fait un sondage la semaine dernière pour demander aux locataires s'ils étaient prêts à signer sur la base d'une visite physique virtuelle, décidément, sur la base d'une visite virtuelle, en connaissant bien sûr l'adresse du logement et en étant assurés que PAP connaissait le propriétaire. Ils étaient 40% quasiment à nous dire que oui, donc je pense que c'est un vrai potentiel en location, ça pourrait pour le coup remplacer la visite physique.
Stéphane Fritz, est-ce que vous pensez que les visites physiques, elles vont pouvoir avoir lieu bientôt ?
Bah, pour l'instant, jeudi, le Premier ministre a été clair, c'est une fin de non-recevoir, et Bruno Le Maire de la même manière. On ne comprend pas ce non-sens, donc on continue de batailler, on continue de discuter avec les pouvoirs publics, et on pense que comme tout le monde, on finira par avoir les visites au 1er décembre. On ne comprendrait pas, par contre, que ça dure.
Et de votre côté, Corinne ?
Courant décembre, je ne suis pas forcément convaincue par le 1er décembre, mais je pense qu'on va avoir une levée des restrictions à Noël. Et par contre, je pense qu'il y aura un retour des restrictions après. C'est pour ça que je pense que c'est important d'être efficace dans les périodes où on est autorisé, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des restrictions à nos déplacements.
Je pense qu'on est assez d'accord.
Ah oui, Philippe, ça malheureusement, on a d'abord le petit cadeau de Noël, un petit déconfinement à ce moment-là, mais après, il y a le père Fouettard qui va venir après le père Noël.
Avec peut-être des couvre-feux, des choses comme ça. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler régulièrement dans Parlimo. Merci à tous les deux. Merci Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hauquel Immobilier. Merci à vous Corinne Joly, présidente du groupe PAP, qu'on retrouve dans quelques instants.
Oui, qui reste là physiquement, parce que ce n'est pas virtuel, on parle Imo, c'est physique et c'est réel. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio, on parle Imo.
On parle Imo, le rendez-vous Imo de Sud Radio. On vous retrouve, Marc, avec Corinne Joly.
Rebonjour Corinne. Alors Corinne, il n'y a pas que le confinement qui a démarré depuis le début du mois, il y a aussi la trêve hivernale. Mais au fait, c'est quoi la trêve hivernale ?
La trêve hivernale, c'est la période pendant laquelle on ne peut pas expulser un locataire. Tous les ans, elle a lieu du 1er novembre au 31 mars. Mais cette année, ça a été un peu spécial. La trêve hivernale a été prolongée jusqu'à l'été, en fait, le 10 juillet.
Alors, mais du coup, ça signifie quoi ? Ça veut dire que si je ne paye pas, il ne se passe rien, si je ne paye pas mon loyer ?
Non. La trêve hivernale, c'est l'arrêt des expulsions, ce n'est pas l'arrêt des procédures. Les procédures pour impayé de loyer, elles suivent leur cours. Simplement, si une expulsion est prononcée, elle ne sera pas exécutée avant le 31 mars. Donc, si on est confronté à un impayé de loyer, la trêve hivernale ne change rien. On fait comme d'habitude.
Bon, ben alors justement, nous, on n'a pas trop l'habitude.
Du coup,
vous pouvez nous dire comment on fait face à un impayé de loyer ?
La première étape, c'est de chercher une solution amiable, donc de dialoguer. Si vous êtes locataire et que vous avez des difficultés à payer votre loyer, contactez votre propriétaire dès que possible pour exposer votre situation. Et si vous êtes propriétaire et que vous n'avez pas reçu votre loyer, pareil, contactez votre locataire pour mieux savoir de quoi il retourne. Si votre locataire est de bonne foi et fait face à de réelles difficultés financières, essayez de trouver un arrangement amiable, comme un échéancier de paiement. Et bien sûr, si vous trouvez un accord, mettez-le par écrit et signez-le tous les deux.
Corinne, si jamais le locataire n'a pas de visibilité sur l'amélioration de sa situation financière, on fait quoi ?
Vous pouvez contacter SOS Loyer Impayé au 0805 160 075. C'est un service téléphonique gratuit à disposition des locataires et des propriétaires qui peuvent avoir des conseils et un accompagnement adapté à leur situation. Les locataires, ils ont aussi la possibilité de bénéficier d'aides financières s'ils traversent une sale passe. C'est notamment le rôle de SOS Loyer Impayé de les aiguiller là-dessus. Mais en gros, il faut savoir qu'il y a deux organismes qui peuvent vous aider financièrement. Le Fonds de solidarité pour le logement et Action Logement.
On rappelle 0805 160 075, SOS Loyer Impayé, ça c'est noté. Est-ce que vous constatez justement en ce moment une augmentation des impayés de loyer ? J'imagine que un certain nombre de locataires ont des difficultés avec la crise sanitaire.
Honnêtement, on ne l'observe pas trop et je pense que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de locataires, quand ils ont des difficultés à payer leur loyer, ils quittent d'eux-mêmes le logement et par exemple ils retournent chez leurs parents, surtout quand ils n'ont plus d'activité. La majorité des locataires n'ont pas du tout envie d'être en situation irrégulière et c'est d'ailleurs ce que confirme SOS Loyer Impayé, qui dit que la majorité des consultations sont des locataires qui anticipent des difficultés financières et cherchent à éviter la situation où ils ne pourraient plus payer leur loyer.
Donc ça c'est vrai que c'est important de le rappeler, mais il y a aussi des locataires de mauvaise foi.
Alors d'après mon expérience et d'après l'effet divers que vous nous sortez chaque semaine, tout existe. Donc oui, il y a des locataires de mauvaise foi. Simplement, il faut vraiment être sûr d'être face à un locataire de mauvaise foi avant de sortir l'artillerie lourde. Parce que si le locataire est de bonne foi, vous avez tout intérêt à trouver un accord amiable, quitte à renoncer à 1, 2 ou 3 mois de loyer. Parce que vous allez voir, la procédure, elle est coûteuse.
Il paraît en effet que c'est coûteux. C'est quoi la première étape ?
Premièrement, on envoie une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Dans la lettre, le propriétaire donne un délai au locataire pour payer les sommes dues, en général 8 à 10 jours. Et puis on envoie la même lettre à la caution s'il y en a une. Et bien sûr, vous pouvez trouver le modèle de lettre sur PAP.
Bon, alors avec un peu de chance, le locataire va régulariser, mais je suppose qu'une fois qu'on en est là, en général, ça ne suffit pas. C'est quoi la prochaine étape ?
Dans la grande majorité des modèles de contrats de location, comme ceux qu'on propose sur PAP, il est inséré une clause résolutoire. La clause résolutoire, c'est la clause qui prévoit la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer. Donc si dans le délai imparti au locataire, dans la mise en demeure, aucun paiement n'a été réalisé, le propriétaire doit se rapprocher d'un huissier de justice. L'huissier de justice va viser le contrat de location et l'éventuelle caution solidaire et il va délivrer un commandement de payer au locataire et à sa caution.
Alors, ok, on continue dans le scénario du pire. Si ni le locataire ni la caution ne paient, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ?
Si le locataire ne s'est pas exécuté dans les 2 mois qui suivent le commandement de payer, le propriétaire peut saisir le juge du contentieux et de la protection, le JCP, auprès du tribunal judiciaire. Le délai de 2 mois doit permettre de saisir les organismes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une enquête sociale et financière qui est réalisée. Le propriétaire et le locataire sont ensuite convoqués à une audience pour présenter leurs arguments. En application de la clause résolutoire, le juge peut soit constater la résiliation du bail et prononcer donc l'expulsion du locataire, soit temporiser la situation et accorder des délais de paiement au locataire.
Et c'est là que la trêve hivernale, elle intervient.
Exactement. Si le juge prononce l'expulsion, celle-ci ne pourra pas être exécutée avant le 31 mars, quoi qu'il arrive. Donc une fois qu'on a obtenu une décision d'expulsion, ce qui peut déjà prendre 6 mois à 1 an, il faut réussir à la faire appliquer, ce qui peut encore prendre du temps.
Alors Corinne, est-ce que les propriétaires, ils peuvent souscrire à une assurance loyer impayé pour éviter tous ces désagréments ?
Oui, et il faut savoir que l'assurance loyer impayé, non seulement elle prend en charge les impayés, mais aussi qu'elle va gérer la procédure. Donc ça, c'est quand même une aide. Et il faut savoir qu'elle a tout intérêt à le faire, parce que tant que le locataire n'est pas expulsé, c'est elle qui paye les loyers. Donc en général, ils sont assez efficaces. Donc ça peut effectivement vous épargner des ennuis et du travail. Et contrairement à une idée reçue, vous pouvez parfaitement souscrire à une assurance loyer impayé en louant de particulier à particulier. Sur PAP, on en propose une. Elle coûte entre 2,6 et 3% du loyer, selon les options.
Merci Corinne, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On rappelle aussi à nos auditeurs, aux auditeurs de Sud Radio, qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils chez PAP en s'inscrivant sur le site pap.fr et prendre rendez-vous avec un coach immobilier. Allez, on va filer en Seine-et-Marne ce matin, on va retrouver Olivier Marchal, il est agent Guy Hoquet à Brie-Comte-Robert. Bonjour Olivier.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Alors, mon cher Olivier, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter ce matin. Il se situe à Limoges-Fourche, hein, vous l'aurez deviné mon cher Philippe.
Ah oui.
Limoges-Fourche, c'est en Seine-et-Marne et pas dans le Limousin.
Oui.
on vous écoute mon cher Olivier.
Notre coup de cœur du moment, donc, c'est une maison briarde avec une extension contemporaine. Hein, comme l'a dit Marc, donc, elle est située dans un village de Seine-et-Marne, à Limoges-Fourche. Pour Philippe qui ne connaît peut-être pas, c'est situé à 30 km de Paris, hein, entre Brie-Comte-Robert et Melun, hein, proche des axes de transport. On est tout à côté, on est à moins de 5 minutes
de la
104 et de la 5.
Ouais.
Hein. Donc cette maison, c'est une longère avec une extension contemporaine. On a une pièce de vie de 70 mètres carrés qui donne sur une terrasse avec vue sur une piscine couverte,
avec
un beau jardin de 1000 mètres carrés clos de murs. On est en plein cœur du village, hein, on n'est pas excentré du tout.
Il y a la fibre là-bas ?
Oui, on a la fibre qui arrive en Seine-et-Marne.
Formidable.
Ils ont même au courant. Hein.
Non, mais attendez, la fibre n'est pas partout.
Mais je plaisante.
Philippe. À quel prix ce bien, Olivier ?
Eh bien, on est à 465 000 euros, Marc. Et puis, pour les visites, hein, comme vous venez d'en débattre, hein, on fait des visios dans l'immédiat en attendant des jours meilleurs.
Donc des visites virtuelles possibles pour visiter ce bien. Merci en tout cas Olivier Marchal. On rappelle que vous êtes agent immobilier Guy Hoquet à Brie-Comte-Robert, c'est en Seine-et-Marne. Ces photos de ce bien, on va les retrouver dès ce week-end sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Pour l'instant, c'est le 48 secondes de Frédéric Fougera.
Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes.
Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité.
Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, avec la crise sanitaire, est-il possible de voter à une assemblée générale de copropriété sans y être présent physiquement ?
Bonjour Marc, la réponse est oui. Assister et participer à distance à son assemblée générale de copropriétaires est désormais possible grâce à l'évolution de la loi qui permet la tenue d'assemblées générales à distance par visioconférence ou audioconférence. Cette évolution permet une participation plus importante et simplifiée et donc une meilleure implication des copropriétaires dans la vie de leur immeuble. La crise sanitaire a amplifié la nécessité pour les copropriétaires de pouvoir s'appuyer sur des services et outils technologiques fiables permettant la réunion des assemblées générales à distance. Par exemple, depuis plus d'un an, 1500 assemblées générales à distance ont été organisées par Foncia, plusieurs milliers le seront dans les mois à venir et les conditions juridiques encadrant l'AG à distance ont évolué pour s'adapter à cette situation exceptionnelle. Pour le moment, c'est jusqu'au 31 janvier 2021 qu'il est possible d'organiser une AG 100% dématérialisée, sans vote préalable, seulement avec l'accord du conseil syndical. Elle pourra dans ce cas se tenir en visioconférence. Sachez également que le vote par correspondance est désormais autorisé. Ce n'était pas immédiatement le cas. Il est donc possible aujourd'hui de faire parvenir à votre syndic un pouvoir et un bulletin de vote par correspondance. Voilà Marc. Maintenant, à vous de choisir comment vous souhaitez participer et voter à votre prochaine Assemblée Générale de copropriétaires.
Merci Frédéric Fougera, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On parle immo, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, mon cher Philippe, on va parler d'immobilier encore.
Oui.
Mais on va poser une question, surtout on va se demander si le secteur de l'immobilier avec ce confinement, il est si menacé que ça. Et voilà, donc pour en parler, on aura le plaisir de retrouver Corinne Joly et Stéphane Fritz qui seront avec nous la semaine prochaine, hein, bon pied bon oeil en direct pour continuer à...
Mais toujours bon pied bon oeil, merci mon cher
et
Marc.
Avec des histoires, je suppose, la semaine prochaine qui risquent d'être...
On verra ça. Ouais. Merci Marc. Comme il y a des drôles d'oiseaux dans On parle immo, on va avoir après une émission qui colle parfaitement bien, vos animaux avec Natacha Harry.
Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.